Temps libre. Présenté par la rédaction des 3-8. Temps libre, le magazine d'actu des 3-8.
Ce que raconte la solitude, c'est donc une exposition collective proposée par Artorama du groupe Le Cartel. C'est du 31 août au 21 décembre. C'est en ce moment à la Tour Panorama. Alors, quelques artistes, Bastien Ader, Meris Angioletti, Ali Cheri, André Cadere, Mathis Collins, voilà, et plein d'autres. Et donc, nous avions envie de proposer à quelques regards de Marseille, Marc Mercier. Bonjour Marc Mercier.
Bonjour.
Marc Mercier qui organise depuis maintenant 27 ans hein, oui. les instants vidéo, un festival numérique et poétique hein, qui va se tenir là tout prochainement du 7 au 11 novembre 2014. Et Amandine André, bonjour Amandine.
Bonjour.
Amandine qui anime le site web La Vie Manifeste, lavimanifeste.com. Et on vous a proposé à tous les deux, disons, de choisir une œuvre dans cette exposition, Ce que raconte la solitude. On vous a aussi fléché un petit peu, hein, il faut le dire, vers une œuvre proposée de Bas Jan Ader. L'œuvre a pour titre I am too sad to tell you, je suis trop triste pour te le dire, c'est cela. Alors, peut-être, j'aimerais qu'on parle un petit peu de cet artiste, son travail, et puis vous, qu'est-ce qui vous a retenu dans cette vidéo? On va préciser, c'est une vidéo qui est installée dans un petit moniteur, en fait, hein, dans l'exposition. C'est une vidéo très courte, qui fait à peine, peut-être 2-3 minutes maximum, cadrée sur un plein visage, hein, et disons que... C'est un visage qui s'effondre, hein, qui pleure. Marc, peut-être cette vidéo, tu la connaissais ?
Qui pleure et qui n'a pas de son.
Et qui n'a pas de son.
On n'entend rien. Ouais. Non, je ne la connaissais pas. D'ailleurs, c'est un artiste dont j'avais déjà vu quelques travaux comme ça dans des expositions. Il est, c'est un artiste important, donc il est représentatif quand même de tout un courant qui lit, donc c'est du cinéma d'ailleurs, hein, qui lit le film, la performance, d'ailleurs lui-même aussi faisait de la photographie. Mais c'est pas un artiste sur lequel je m'étais vraiment penché. Alors, le fait d'avoir été un petit peu orienté par toi pour interroger ce travail, donc j'ai un petit peu fouillé, je me suis aperçu qu'en fait c'était quelque chose d'absolument... incontournable, puisque c'est, on va dire que c'est peut-être un artiste tragique, puisqu'il a eu quand même une destinée assez improbable, puisque là, cette vidéo, par exemple, date de 71, et en 75, il se lance dans ce qui pour lui était considéré comme une performance, mais en la portant jusqu'au bout des limites, puisqu'il s'est embarqué dans l'Atlantique et on n'a jamais retrouvé son corps. On a retrouvé quelques semaines après son embarcation. Et d'ailleurs, le titre de cette expérience s'appelait « In Search of Miraculous », donc à la recherche d'un miracle, quelque chose comme ça, qui témoigne bien, je trouve, de cette recherche d'absolu qui apparaît, qui traverse comme ça sa démarche. Peut-être, ce qui n'est pas évident quand on regarde son travail de manière isolée, parce que ça pourrait... apparaître comme anecdotique, j'ai envie de dire, certaines des expériences qui sont apparues, enfin, je pense à certains films où on le voit à vélo, puis ensuite tomber dans l'eau, enfin, des choses comme ça. Si on regarde ça isolément, on ne comprend pas qu'il y a une véritable démarche, une véritable de défi. Je crois que c'est un artiste du défi, le défi des équilibres, la confrontation à la chute, et donc il est allé même jusqu'à cette confrontation absolue, puisqu'il a atteint, la mort. Et j'ai noté une phrase où quelque part il tente de définir son travail. Je la trouve très très évocatrice. Enfin, quand il dit « Je voudrais faire une œuvre où j'irai dans les Alpes et parlerai à la montagne. La montagne me dirait des choses qui sont toujours et nécessairement vraies. Et je lui répondrai des choses qui sont parfois et accidentellement vraies. je trouve qu'il y a une espèce de lucidité sur ce que c'est que la représentation. Alors, ce qui est aussi extrêmement touchant, c'est, et c'est d'ailleurs, quand je vais dire qu'il fait écho, alors on parle de silence, c'est cette relation entre le titre de l'exposition globale, se raconte la solitude, et voilà un homme qui ne parle pas, qui émet absolument aucun son. Et en voyant ce travail, je me suis dit, mais ça m'évoque d'autres images. Et dans mon histoire, il y a une période où je m'intéressais intensément au théâtre, et puis tout d'un coup, je me suis m'est revenu deux images. Et souvent pour le théâtre, quand les spectacles ne peuvent plus être remontés avec la distribution qui a été essentielle quand elles ont été créées, il reste des images emblématiques. Et les deux images qui me sont revenues, qui sont effectivement deux images où plus aucun son ne sort de la bouche des protagonistes. La première, c'est le spectacle monté par Bertolt Brecht dans les années 50 avec Hélène Weigel, Mère Courage, où il y a une séquence absolument extraordinaire où Hélène Weigel, qui est donc, joue le rôle d'une mère dont les enfants ont été tués à cause de la misère, de l'oppression, etc. Et Hélène Weigel est assise, elle a les pieds ancrés sur le sol, elle a son corps qui est tiré vers le ciel, avec, et même son cou comme ça est tiré, et elle crie toute sa douleur pour que le monde entier l'entende et puisse se révolter, sauf qu'aucun son ne sort de sa bouche. Et c'est très fort parce que ça ne veut pas dire qu'elle est muette, ça veut juste et qu'elle n'a rien à dire. Au contraire, c'est un trop-plein de douleur, un trop-plein de paroles, mais qui s'entend. Visuellement, ça s'entend. Et l'autre image qui m'est revenue, qui est un spectacle qui a été monté, je pense, à peu près à la même époque, c'est Le Prince Constant, avec, monté par Grotowski, où il y a cet acteur absolument emblématique, Richard Cieslak, qui lui aussi est mort, très très jeune d'ailleurs. Et dans Le Prince Constant, il y a une scène où il est persécuté, moqué, sifflé. Et lui est aussi dans une position assise, mais avec une excessive légèreté. On a l'impression qu'il est à peine posé. Il est presque nu. Il a sa tête posée sur la main droite, d'ailleurs, qui tient un espèce de tissu rouge. Et il est complètement enfermé sur lui-même. C'est une image presque d'un Christ fatigué. Et contrairement à Hélène Weigel, il ne dit plus rien, non pas parce qu'il a trop de choses à dire, mais parce qu'il n'a plus rien à dire à ce monde qui l'opprime. Et je trouve que le travail de Bajan Ader, en tout cas de cette vidéo où s'exprime une douleur, on le voit pleurer, on voit son visage donc exprimer quelque chose de très profondément douloureux, et j'ai l'impression qu'elle se situe exactement entre les deux images que je viens de décrire. On a d'un côté, j'avais noté, on a d'un côté le cri qui ne peut plus s'exprimer de Hélène Weigel, de l'autre côté le repli de Richard Cieslak, et j'ai l'impression que ce travail est juste là, au milieu, dans cette espèce d'improbabilité, quoi, entre le cri et le repli, entre la révolte et la cèse.
Amandine, Marc parlait de la chute. Il y a tout effectivement un travail comme ça sur la chute par rapport à cet artiste, Bastian Nader. Toi, Amandine, qu'est-ce que tu as vu dans cette vidéo? Je suis trop triste pour te le dire.
Effectivement, dans le travail de Bastian Nader, il y a la question d'une figure qui ne se tient plus. Sur toutes ces autres courtes vidéos, qui sont très courtes, qui durent pas plus de 2 minutes, c'est toujours le moment où cette figure, parce que c'est un personnage très fin, va se tenir sur une crête et va tenter de, jusqu'au bout, en fait, va essayer de tenir une durée qui est toute petite, mais dans cette durée, on va voir ce moment où le corps va trembler et va chuter. Donc, il y a effectivement quelque chose de tragique, mais il travaille aussi sur le burlesque, puisque c'est des situations complètement insolites. C'est-à-dire que lui-même se met dans ces situations insolites, ou sur une sorte de chose impossible, il va essayer de tenir au maximum. Et on voit cette notion de chute arriver. C'est aussi tout un travail sur la question de la représentation, puisque la question de la représentation sociale pousse à faire tenir les corps, en fait. On a l'idée de toujours d'être dans une verticalité pour se présenter. Enfin, c'est aussi une notion occidentale, en fait, de la face qui se tient. Donc, le visage est aussi, en termes de représentation, quelque chose qui a ses propres codes et doit être toujours tenu. Ce qu'il y a de stupéfiant dans cette vidéo, c'est que on va avoir effectivement ce moment où le visage, parce que c'est muet aussi, parce qu'on n'a plus le langage qui tient à distance, puisque nous sommes tous... Le langage est ce qui permet de tenir à distance et de formuler, d'aller dans d'autres espaces. Le fait qu'il y ait justement cet abandon du langage, on va avoir une proximité avec ce visage et on va assister à tout. Le visage devient une... Enfin, pour reprendre une idée de Deleuze, va vraiment se plier, se déplier en fonction de tout ce qui est traversé. Et c'est une chose qui, dans le monde quotidien, où on essaye d'éviter, on ne tient pas aussi ce regard, en fait. On a tendance à, justement, détourner le regard de cette douleur par pudeur. Et là, au contraire, on va être complètement stupéfait partout, parce que la tristesse a une forme et déforme le visage.
On peut parler de chute, là, sur cette vidéo, qui est effectivement ce visage. On peut parler de chute, c'est un moment de chute, d'un moment d'effondrement.
Bah, oui, en fait, c'est une autre façon de travailler la chute, puisque le visage ne tient plus. Enfin, la représentation sociale, selon ses codes, ne tient plus. Et donc, on a effectivement quelque chose. Temps libre.
Le magazine d'actu de Radio Grenouille.